France Musique. Nous sommes le mercredi 29 avril, bienvenue sur France Musique où l'on vous espère en bonne forme. Et pour bien commencer cette journée, retrouvons tout de suite et jusqu'à 9h notre cher Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin.
Merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout le monde peut signer la pétition que le baryton Ludovic Tézier et le ténor Jonas Kaufmann viennent de lancer. S'adresse à l'Union européenne. Elle demande cette pétition au gouvernement de ne pas sacrifier l'art sur l'autel des restrictions budgétaires face à la crise. Mais pourquoi l'opéra est-il particulièrement en danger? Ludovic Tézier sera notre invité à 8h50. Des sérénades sur les balcons de Caracas, des portes ouvertes à l'Opéra de Bordeaux et bien sûr les mesures annoncées hier par Édouard Philippe qui concernent la vie artistique. Voilà quelques-unes des infos qui seront développées par Sophie Anastasio. Classique Info, c'est à 9h20. 10 minutes plus tôt, Suzanne Gervais nous emmène, elle, dans l'atelier d'un luthier lyonnais. Un luthier qui vient de lancer une heureuse initiative. Rendez-vous à 8h30. Et puis dans un quart d'heure, elle s'enivre du chant des oiseaux, en particulier d'un merle. Anne-Charlotte Raymond sera dans son jardin. C'est la voix de France Musique aujourd'hui qui a choisi pour nous une œuvre qui fait du bien.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, cette journée va briller, car voici Chabrier.
We'll be right back.
Emmanuel Chabrier, la danse slave de son opéra Le Roi malgré lui, c'était l'Orchestre National de France, dirigé par Armin Jordan en 1982. L'Orchestre National de France qui a lancé voilà 15 jours Viva l'Orchestra en version confinée. Ce projet invitait tous les musiciens amateurs de toute la France à jouer la valse numéro 2 de la seconde suite de jazz de Shostakovich, le tout encadré par les musiciens de l'Orchestre National. Alors de nombreux, très nombreux instrumentistes ont participé grâce aux tutos, aux vidéos qui étaient diffusées par francemusique.fr. Le résultat final, la vidéo, elle sera en ligne dès ce soir, 18h, sur notre site et sur les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, je joue pas d'instrument de musique, je ne pouvais pas participer. Oui, mais vous chantez, pas besoin d'être Anna Netrebko ou Roberto Alagna pour faire partie du grand chœur virtuel lancé par la maîtrise de Radio France avec le Théâtre du Châtelet. Vous avez jusqu'à vendredi minuit, le 1er mai, là dans deux jours, pour enregistrer votre version de la Chavanaise de Serge Gainsbourg. Alors c'est à quatre voix, soprano, alto, ténor, basse, vous choisissez. Les tutos, les partitions sont d'ores et déjà en ligne sur francemusique.fr et à partir de midi tout à l'heure, vous pouvez envoyer votre vidéo à l'adresse suivante, le temps d'une chanson en un mot, @radiofrance.com. Le résultat sera un grand chœur virtuel auquel participera d'ailleurs Jane Birkin, la Javanaise, Serge Gainsbourg 1962. Ici, c'est Thomas Enko qui laisse courir ses doigts sur son piano. Thank you. On l'écoutait hier matin dans Mozart, cette fois c'est dans la musique de Serge Gainsbourg que brille Thomas Enko, le jeune pianiste très actif en confinement entre concerts live et autres publications sur les réseaux sociaux, La Javanaise, donc qui est la chanson que vous pouvez chanter, vous choisissez soprano, alto, ténor, basse et vous participez avec les chanteurs de la maîtrise de Radio France au grand chœur virtuel avec Jane Birkin également. Ce sera diffusé dans une dizaine de jours. Thomas Enko, très actif sur les réseaux sociaux, c'est le cas aussi de Gauthier Capuçon. Tous les jours, en fait, le violoncelliste joue et envoie ses vidéos avec des incursions parfois dans la musique pop, même Henri Dess pour les enfants. Que diriez-vous d'un concert virtuel privé de Gauthier Capuçon où il jouerait en vidéo rien que pour vous? Eh bien, c'est ce que le musicien propose via une célèbre maison de vente aux enchères, et cela au profit des musiciens nombreux affectés par la crise du Covid-19. Gauthier Capuçon, il joue pour nous ce matin la pièce sans laquelle David Popper serait tombé dans l'oubli, La danse des elfes. La danse des elfes de David Popper, Gauthier Capuçon au violoncelle avec l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd. Vous ne connaissez rien à la musique de Perrotin, ce compositeur de l'école de Notre-Dame de la fin du XIIe siècle, début XIIIe. Eh bien, je vous rassure, moi non plus. Anne-Charlotte Raymond, elle, en sait bien davantage. Tout à l'heure, à 13h, dans Musicopolis, elle nous fait explorer sa musique, et en particulier une œuvre de Perrotin, Viderunt Omnes. Musicopolis, c'est vraiment une émission à découvrir. Si vous ne la connaissez pas, notamment en cette période, on peut la podcaster, l'écouter au casque, en se promenant pendant notre heure quotidienne autorisée. Anne-Charlotte Raymond, elle profite de son jardin et de ses habitants. C'est elle, la voix de France Musique, ce matin. Elle nous conseille une musique de réconfort.
Musique matin à la maison.
Bonjour Jean-Baptiste et bonjour les auditrices et les auditeurs de France Musique. J'espère que vous allez bien. Je vous parle de mon jardin, parce que c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que figurez-vous que quand je n'écoute pas France Musique, eh bien, j'écoute ce qui se passe dans mon jardin. Et le soliste, le chanteur absolu, c'est le merle, évidemment. Ce merle, parfois, il peut chanter, mais absolument toute la journée. Je l'entends le matin, à midi, l'après-midi, le soir, jusqu'à la tombée de la nuit. Il n'est pas le seul, évidemment. Je sais pas si vous entendez, là, on a un roucoulement de tourterelles. Il y a aussi un petit étourneau qui est tout seul. C'est bizarre. On entend aussi beaucoup de moineaux. Il y a souvent un pinson. Quand le pinson vient, là, les autres ont du mal à se faire entendre. On a un rouge-gorge qui est là très souvent, évidemment. Ça, c'est un son très délicat. Je me suis demandé quelle était la musique qui pourrait aller avec cette polyphonie des oiseaux. Une polyphonie qui, je dois dire, m'enivre complètement. Et j'ai pensé au troisième mouvement du concerto brandebourgeois numéro 2 de Bach. C'est un mouvement dans lequel on entend, là encore, une polyphonie. Alors, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des instruments. Bon, allez, c'est pas mal non plus. Et je vous propose la version qu'aujourd'hui j'ai préférée. J'en ai profité évidemment pour en écouter une bonne quinzaine. Je me suis enivrée de Bach, là encore. Et je vous propose celle de Giovanni Antonini avec le Giardino Armonico. Donc voilà, j'espère que vous allez entendre cette musique comme je l'entends moi, comme j'entends aussi mon jardin. Et je vous souhaite une très bonne journée.
Jean-Sébastien Bach, le troisième mouvement du deuxième concerto brandebourgeois avec Il Giardino Armonico, dirigé par Rinaldo Alessandrini. Le choix ce matin d'Anne-Charlotte Raymond, peut-être aussi du Merle qui était à ses côtés. On la retrouve, Anne-Charlotte, tout à l'heure à 13h sur France Musique.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Que sera, sera.
La voix de Doris Day, qui nous a quittés l'an dernier, Que sera, sera, une chanson qu'elle interprète dans L'homme qui en savait trop, un film de 1956 d'Alfred Hitchcock, ce film où d'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, le tueur doit tirer sur un homme en plein concert au Royal Albert Hall au moment du coup de cymbale, et c'est Bernard Herrmann, le compositeur de la musique du film, compositeur de tant de musique de films d'Alfred Hitchcock, qui joue le rôle du chef d'orchestre Alfred Hitchcock, disparu il y a tout juste 40 ans aujourd'hui. Allez, si on parlait football, tiens, Robert Herbin, il vient de mourir, il avait 80 ans. Robert Herbin, joueur de l'époque mythique de la AS Saint-Étienne, puis entraîneur avec sa chevelure rousse et frisée, si reconnaissable. On l'appelait le Sphinx, Robert Herbin, car il n'aimait guère parler. C'était en revanche, le saviez-vous, un fin mélomane. Hier, plusieurs journaux rappelaient qu'en 1966, pendant la Coupe du Monde, Robert Herbin, blessé, avait reçu de son père, tromboniste à l'Opéra de Nice, un enregistrement de la deuxième symphonie de Gustav Mahler, la bien nommée Résurrection, puisqu'il était blessé. Mahler, Herbin va continuer toute sa vie à le chérir, ce compositeur. Vincent Duluc, qui est journaliste à l'Équipe, raconte en outre ce souvenir d'une interview de 1993 où Robert Herbin passe 20 minutes à chercher France Musique sur son petit transistor sans parler. À la fin de l'interview, le journaliste demande à Herbin son meilleur souvenir de Lyon qu'il avait entraîné. Silence, puis réponse d'Herbin. Un concert Berlioz à l'auditorium Maurice Ravel. Alors pour Maurice Herbin, ce matin, voici Berlioz, l'Orchestre National de Lyon, le menuet des Feux Follets.
Thank you.
Berlioz sur France Musique, le menuet des Feux Follets dans la Damnation de Faust. C'était l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Kent Nagano. Vous écoutez France Musique, c'est Musique Matin, fait à la maison entièrement, et c'est chez lui que nous rejoindrons dans 20 minutes notre invité, le baryton Ludovic Tézier. Avec Jonas Kaufmann, il vient de lancer une pétition à l'adresse de l'Union Européenne, un cri d'alarme même, il nous expliquera pourquoi. C'est l'un des jeunes pianistes français les plus intéressants de ces dernières années. Enfin, Théo Fouchéneret sort son premier album. Il s'attaque à Beethoven, extrait de ce nouveau disque à 9h moins le quart. Et puis 8h40, toute l'actualité musicale, retour notamment sur les annonces d'Edouard Philippe concernant le monde de la culture. Mais pour l'heure, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne, ce matin on part à Lyon dans l'atelier d'un luthier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Oui, ce matin, on va dans l'atelier du luthier lyonnais Alexandre Snitkowski, ou plutôt, hein, puisque l'atelier est fermé, sur la page Facebook de l'atelier. Alors, c'est peu de le dire, hein, les luthiers et les facteurs d'instruments se bougent en ce moment, malgré le coup de massue du confinement. Certains choisissent de livrer à domicile, je vous en ai parlé, et d'autres, en tout cas un autre, car c'est une initiative inédite dont je vous parle ce matin. Un autre organise un concours de musique spécial confinement, à la maison donc, et sur vidéo. Ce concours, il est très ouvert. Il n'y a pas de limite d'âge, pas de nombre de participants imposés. Vous pouvez jouer seul ou à 2, 4, 6, 8. Et pas de répertoire imposé non plus. La seule condition, c'est qu'il y ait au moins un instrument du quatuor, à cordes, donc dans l'effectif, ce qui est logique de la part d'un luthier. Faites donc travailler votre imagination et faites vos gammes, car votre vidéo est attendue dès maintenant. Dès réception, elle sera publiée sur la page Facebook de l'atelier Alexandre Snitkowski. Et tous les mercredis à midi, la vidéo qui aura reçu le plus de likes sera récompensée. Et pas simplement par l'estime des internautes, mais en monnaie sonnante et trébuchante. Une récompense de 200 euros aujourd'hui, 300 euros mercredi prochain le 6 mai et 400 euros le dernier jour, le 13 mai. Sachez que la date limite pour envoyer vos petites vidéos, c'est le 10 mai. Voilà donc une initiative généreuse de la part d'un atelier de lutherie que je vous invite, si vous aimez les cordes et les concours de musique, eh bien à suivre sur Facebook.
Suzanne Gervais, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de votre chronique Musique Connectée pour la réécoute, pour le podcast et la version écrite aussi de cette chronique. Ils sont lyonnais, je ne sais pas s'ils vont chez votre luthier, en tout cas les musiciens du Quatuor de Bussy viennent de sortir la vidéo de présentation de leur prochain projet, ça s'appelle Égérie, ça aura lieu l'an prochain au Théâtre de la Croix-Rousse. Le Quatuor de Bussy joue ici sur l'un de ses derniers albums, la musique du compositeur américain Marc Mellitz, Allegro Groove. La fougue, la flamme de ce septième mouvement, Allegro Groove, quatrième quatuor du compositeur américain Marc Mellitz, compositeur vivant, il a 54 ans, avec le quatuor Debussy. Voilà plusieurs années que Véronique Jans a choisi la douceur de la vie nantaise pour s'installer en famille. Toute la semaine, la soprano se raconte sur France Musique. C'est dans les grands entretiens au micro de Priscille Lafitte à 22h30. De ses débuts aux arts florissants où William Christie avait parfois des mots durs, jusqu'à sa rencontre avec Jean-Claude Malgoire qui la fera entrer dans les grands rôles mozartiens. Autre chef proche de Véronique Jans, c'est Emmanuel Haïm. Elle dirige ici son concert d'Astrée, la voix de Véronique Jans qui se mêle à celle de Nathalie Dessay dans ce bouleversant duo du Dixit Dominus de Handel. Quelle beauté ce duo d'Etorente in via Bibette, à l'eau du torrent en chemin il boira, du Dixit Dominus de Handel, les voix de Nathalie Dessay et de Véronique Jans avec le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. Véronique Jans qui vient de sortir un nouveau disque autour de la mélodie française, ce sera d'ailleurs notre disque du jour demain à 9h moins le quart, mais aujourd'hui aux alentours de 8h40, il est l'heure de rejoindre Sophie Anastasio. Pour Classique Info, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'exprimait hier devant les députés pour présenter et faire voter le plan du gouvernement en vue de la première phase de déconfinement. Les médiathèques, bibliothèques et petits musées pourront rouvrir le 11 mai, mais pas les grands musées, les cinémas, salles de concert et théâtres, qui resteront fermés au moins jusqu'au 2 juin, date de la prochaine phase. D'ici là, les rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à 10 personnes. Enfin, tout événement de plus de 5000 participants est interdit jusqu'en septembre, une mesure qui concerne donc directement les grands festivals. Les chanteurs Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier, qui sera dans un instant sur notre antenne, ont rédigé une pétition à destination de l'Union européenne et de ses gouvernements. Ils demandent au public de la signer pour soutenir l'art lyrique et les professionnels du spectacle vivant, durement touchés par les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Traduite en 5 langues, elle est disponible sur le site change.org. Et un autre texte a été signé par plusieurs acteurs et actrices de la vie musicale. Une tribune intitulée « Pour un monde musical écologique et social ». Artistes chargés de production ou encore professeurs s'engagent à prendre des mesures pour une reprise de l'activité quand elle sera possible plus respectueuse de l'environnement, en diminuant par exemple les transports les plus émetteurs ou en favorisant les projets de proximité. Vous pouvez retrouver ce texte signé entre autres par Bertrand Chamaillou, Julien Chauvin, Sébastien Dossé et Vanessa Wagner sur le site cadencerompue.fr. Avant les annonces d'Édouard Philippe, l'Opéra National de Lorraine à Nancy annonçait déjà à son tour l'annulation de la fin de sa saison 2019-2020. Le remboursement des billets total ou partiel selon le choix du public est possible jusqu'au 1er septembre. Les Flâneries musicales de Reims ont également annulé leur festival d'été. En Angleterre, le Royal Opera House de Londres suspend lui aussi le reste de sa saison. Elle devait se terminer le 23 juillet. C'est aujourd'hui la journée internationale de la danse. Pour l'occasion, le ballet de l'Opéra de Bordeaux vous propose des portes ouvertes sur Zoom ou Facebook. Au programme cours de danse, échange avec les danseurs, initiation aux portées et une surprise à 17h45. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'institution. La maîtrise de Radio France a quant à elle imaginé un grand chœur virtuel avec le Théâtre du Châtelet, France Musique et la participation de Jane Birkin. L'opération s'appelle Le Temps d'une chanson et elle vous invite à interpréter chez vous la javanaise de Serge Gainsbourg. Des tutoriels sont notamment disponibles sur francemusique.fr en fonction de votre tessiture. Et si vous le souhaitez, vous avez ensuite jusqu'au 1er mai, ce vendredi, pour envoyer une vidéo de vous en train de chanter pour faire partie de ce grand chœur virtuel. Les premières images seront dévoilées le 9 mai.
Classique Info, Sophie Anastasio à retrouver aussi sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. L'an dernier, Théo Fouchéneret avait été nommé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie soliste instrumental. Et pourtant, ce jeune pianiste niçois, âgé de 25 ans, s'il s'était fait remarquer comme un chambriste hors pair, eh bien, il n'avait pas encore sorti de premier disque. C'est chose faite, et c'est à Beethoven qu'il s'attaque pour ce premier album. Il vient de paraître en numérique chez la Dolce Volta. Deux grandes sonates, la monumentale, monstrueuse Hammerklavier, c'est une musique très abstraite, à laquelle Théo Fouchéneret donne vraiment beaucoup de clarté, et puis l'autre sonate au programme, c'est la Waldstein, la 21e, il lui insuffle là tout son feu, toutes ses flammes. Voici Théo Fouchéneret, la fin du premier mouvement de cette sonate Waldstein. Beethoven, la fin du premier mouvement de la sonate opus 53, La Waldstein, c'est le premier disque solo de Théo Fouchenray. Permettez-moi de vous le recommander vivement. Il vient de sortir cet album en numérique il y a quelques jours chez La Dolce Volta. France Musique, tout le monde à la maison, y compris notre invité du jour. C'est l'heure.
Musique Matin à la maison, France Musique.
Et notre invité ce matin est l'un des plus grands barytons des scènes lyriques internationales, habitué de l'Opéra de Paris autant que du Metropolitan Opera de New York. Bonjour Ludovic Tézier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Depuis maintenant plus de 3 semaines à cette même heure, nous recevons des artistes, notamment des chanteurs. Ils disent toutes leurs inquiétudes. Ça a été le cas de vos collègues Karine Dehaye, Benjamin Wernheim, encore avant-hier Roberto Alagna. Vous, Ludovic Tézier, vous venez avec le ténor allemand Jonas Kaufmann de lancer une pétition pour sauver l'art lyrique menacé par le Covid-19. D'abord, pourquoi une pétition ?
Pourquoi une pétition ? Parce que je crois que du fond de notre confinement, on peut rapidement devenir inaudible. Et il est important, je trouve, sur la situation actuelle, de communiquer à la fois avec les autorités, mais aussi, et c'est capital, avec ceux qui sont les collègues, ceux qui nous soutiennent dans le public, afin de maintenir cette idée qui, à mon avis, est fondamentale, que pendant et après, surtout cette crise dramatique que nous traversons, la culture, et en particulier, puisque c'est mon domaine, l'art lyrique et le spectacle vivant de manière un peu plus générale, puisse reprendre la place, j'allais dire qu'il lui revient, parce que c'est une place assez fondamentale dans la culture européenne. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de cette démarche, et à la fois, évidemment, d'envoyer un message aux autorités afin qu'ils prennent en compte la volonté des citoyens, c'est un joli mot, que cette culture-là existe et soit protégée et puisse revenir dans les conditions qui seront fixées assez rapidement sur les tréteaux.
Ce message, Ludovic Tézier, vous l'adressez à l'Union européenne. Mm-hmm. Pourquoi l'Union européenne ?
Parce que je crois qu'il y a aujourd'hui ce niveau extraordinaire, donc on appelle l'Europe, et qu'il faudra tout de même arriver, que ce soit, on a pu le constater récemment pour la médecine, où c'est le moins qu'on puisse dire, les choses n'ont pas marché de manière parfaitement uniforme, et plus généralement pour la culture, il faut vraiment que cette Union européenne prenne ses marques et commence à être plus organisée, plus unificatrice. Mmh. Ensuite, bien évidemment, les décideurs, eux, voient ce qui, à leur niveau, semble être le plus intéressant pour la communauté. C'est là où nous agissons, où nous essayons d'agir, en leur démontrant que nos métiers apportent non seulement humainement beaucoup, je pense, à la communauté, mais, et ça, les chiffres parlent pour nous aussi économiquement. Et c'est là où moi je suis un petit peu abasourdi d'entendre ce discours général où on a tendance à dire que la culture, l'art lyrique et tout le reste des spectacles vivants, finalement, sont un coût faramineux pour la société, alors que non seulement par eux-mêmes, ils engendrent quelques 9 milliards d'euros par an en France, j'ai bien dit 9 milliards d'euros, et dont le bénéfice va à d'autres catégories, j'espère, dont l'éducation et dans la médecine, donc je suis absolument fier de ça, et évidemment en train de retomber sur tout un tissu économique local, notamment, on peut l'imaginer plus facilement, lors de tous ces festivals qui fleurissent de partout sur notre sol et plus généralement en Europe. On peut penser bien évidemment aux hôteliers, on peut penser aux restaurateurs, on peut penser aussi aux toureurs qui organisent des voyages pour aller profiter de telle ou telle représentation, que ce soit Aix-en-Provence, Orange ou Salzbourg ou Bayreuth ou d'autres festivals moins connus mais qui font un travail remarquable de partout en Europe. Mais en parlant simplement des métiers de l'art vivant, cela fait travailler quand même 250 000 personnes en France. Je préfère les avoir au travail et pour le bonheur des autres que les avoir malheureux au chômage. Ça me semble une évidence, c'est un discours, là aussi, auquel je ne vois pas en quoi on puisse opposer quoi que ce soit. Voilà. Ces gens-là doivent travailler, doivent exercer leur profession, qui sont des professions qui apportent beaucoup aux autres. Donc je trouve que lorsque le politique prend conscience ou prendra conscience de ce que peut apporter en termes de dynamique économique la présence du spectacle vivant, on a peut-être l'espoir d'être mieux soutenu que nous sommes en ce moment où manifestement nous sommes, comme le disait Renaud Capuçon assez justement, un petit peu le dernier wagon de l'éventuelle reprise. Et ça n'est pas ni juste ni très, j'allais dire, constructif, parce qu'encore une fois, je pense que nous sommes un chaînon important de la dynamique économique européenne.
Pour finir, Ludovic Tézier, vous, plus personnellement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus depuis quelques semaines? Moi, je me souviens de vous avoir vu dans le rôle de l'ESCO, dans une des rares représentations de Manon à Bastille, il y a quelques semaines. Ça paraît très loin.
Vous savez, moi, j'ai souvent dit, par le passé, en interview, que ce qui était vraiment très important pour moi dans mon métier, c'est le contact avec les autres. Bien évidemment que c'est formidable d'avoir le privilège, d'avoir l'instrument et la technique pour arriver à créer une intimité toute personnelle avec Verdi ou Mozart et leur rendre service autant qu'ils me rendent service. Mais au-delà de ça, côtoyer toutes les professions. Vous savez, quand on vient au théâtre pour une nouvelle production, on va voir les perruquiers, on va voir les costumiers, on salue les gens de la scène, on regarde les décors et on croise les musiciens de l'orchestre, on les entend se préparer et ensuite, on va partager la scène, on va partager des moments d'émotion formidables avec des collègues. Voilà ce qui me manque, c'est ce contact avec ces gens-là. Et à la fin de ces soirées extrêmement prenantes, extrêmement enrichissantes, c'est d'aller à la rencontre du public pour en parler, pour serrer des mains, même si maintenant ça va être compliqué, mais l'image restera, à défaut de le faire réellement. Et voilà, et partager un amour et une fascination pour un art qui... je le pense, apporte quelque chose d'assez, je sais pas, peut-être sacré, c'est peut-être plus un mot trop à la mode, mais en tous les cas, qui élève l'individu. Voilà, c'est ce que je perçois, et c'est ce qui forcément, en creux, me manque considérablement aujourd'hui.
Merci beaucoup Ludovic Tézier. Cette pétition, elle est sur change.org, on la trouve également sur francemusique.fr, vous l'avez lancée avec Jonas Kaufmann. Alors lundi, absolument, on se quittait avec Roberto Lania, avec la romance de Nadir, de Bizet, et bien vous voici, vous parliez d'art sacré, vous voici dans le duo Au fond du Temple Saint, avec votre ami Jonas Kaufmann, l'Orchestre d'État de Bavière, dirigé par Bertrand Billy. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au fond du Temple Saint, paré de fleurs et d'or, une femme. Yes.
L'étrange adhèr s'alime,
elle fait nouveau me consume.
Ta mère repousse ma main,
ta mère repousse ma main.
Et nos cœurs, l'amour s'empare, et nous change d'ennemi.
Non, que rien ne nous sépare,
oh, rien.
Que rien ne nous sépare,
oh, rien.
Je n'en veux rester
ami.
Georges Bizet, au fond du Temple Saint, c'est à l'acte 1 des Pêcheurs de Perles, Ludovic Tézier et Jonas Kaufmann, l'orchestre de l'Opéra d'État de Bavière, dirigé par Bertrand Billy. Ludovic Tézier et Jonas Kaufmann qui lancent donc cette pétition pour sauver l'art lyrique. Vous retrouverez le lien dans l'article qui leur est consacré sur francemusique.fr dans la rubrique Actualité musicale. C'est la fin de Musique Matin à la maison. Loïc Duros était à la technique, Sophie Pichon à la réalisation, Marion Guillemet avec Taïsia Froidure, Margot Muller et Pauline Boisaubert à la coordination. Dans un instant, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier avec une rareté ce matin, l'opéra Olympie de Spontini par Jérémy Rohrer et le Cercle de l'Harmonie. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de France Musique et je vous donne rendez-vous demain.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.